Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit. Alors, moi j'ai une version second 21, là c'est pas tout à fait pareil. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie, que tu marches orgueilleusement avec ton Dieu. On va lire maintenant dans Philippiens, que tu marches humblement, hein, avec ton Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, ce magnifique verset, chapitre 2, on va se faire plaisir, hein, c'est un beau texte. S'il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a de la tendresse, encore une fois, hein, second 21. Vous avez toutes sortes de Bibles autour de vous, là, c'est une des dernières versions de la version second qui a été éditée. S'il y a une communion d'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, verset 2, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, ou que l'humilité vous fasse regarder les autres. Il y a le verbe « faire » qui aussi va nous arrêter, regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le verbe considérer, le verbe regarder, il est pareil. J'ai la parole vivante, certains peut-être l'ont, pour le verset 3. N'agissez pas en vue de satisfaire vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Hier soir, je parlais aux jeunes et je disais que dans la Bible, il y avait des phrases ordinaires avec des mots ordinaires. Mais ces phrases ordinaires avec des mots ordinaires nous amènent, nous entraînent, nous introduisent dans une vie extraordinaire. Et c'est un peu le cas ici. C'est un peu le cas. On n'a pas de mots qui sont très compliqués. Et pourtant, il y a un programme qui est vraiment un grand programme. Alors, l'humilité, si on essayait de comprendre un petit peu ça avant d'entrer dans le texte, c'est un mot qui évoque bien sûr l'opinion qu'on peut avoir de soi, mais surtout ici, je remarque, selon la Bible, que c'est un mot qui évoque l'opinion que j'ai des autres. Et c'est là-dessus que nous allons parler. Le contraire de l'humilité, c'est agressivité, orgueil, fatuité, la gloriole, la hauteur, la présomption, la suffisance, l'amour propre. L'humilité, c'est comme humanité, ça vient de la même racine, la poussière, l'humus. Et quelqu'un a dit que l'humilité, c'est le propre de l'humanité. L'humilité, c'est le propre de l'humanité. Dans le texte de Philippiens, il y a deux parties dans ce chapitre 2. Vous avez une partie qui parle d'humilité et une partie qui parle d'humiliation. C'est pas pareil. Lorsque Christ est mort sur la croix, il n'a pas montré son humilité, il a montré son humiliation. Et ça nous fait intervenir une notion qui est liée à l'humilité et à l'humiliation, c'est la notion de dignité. Et si on doit donner la définition de l'humilité, eh bien, ce n'est pas la conscience de son indignité, l'humilité. Je crois que dans notre foi, nous avons besoin de réaliser ça. Quelquefois, nous disons « je ne suis pas digne ». Quelque part, c'est vrai. Mais il nous a rendus dignes. Et l'humilité, c'est réaliser qu'on est digne. Mais que nous n'avons ni les moyens d'entretenir cette dignité et que nous n'en sommes pas la source. C'est ça, l'humilité. Je suis digne, mais c'est pas grâce à moi. C'est grâce à lui. Et cette conscience que cette dignité ne vient pas de moi, elle m'habite entièrement et c'est ce qui fait de moi quelqu'un de humble. Je dis ça parce que quelquefois, nous chantons ou nous avons tendance à dire je veux m'humilier, je veux m'humilier. Je crois pas que ça ferait plaisir à un père d'avoir un fils ou une fille qui vient à table à midi au repas en disant « Papa, je veux m'humilier ». Mais je crois que ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est de dire « Ouais, c'est formidable, comme on l'a entendu tout à l'heure, je suis participant de la nature divine, c'est merveilleux. Je suis fils de roi, c'est merveilleux. Je suis frère de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais tout ça, je sais pertinemment que je ne mérite pas, je te le dois, c'est grâce à toi. » C'est ça l'attitude de l'humilité et nous allons voir qu'elle va nous amener à une certaine relation avec les autres. Il y a quelque temps, je me trouvais au centre évangélique de Logne. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de ça. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans vers la fin de troisième semaine de novembre et dans laquelle il y a une exposition. Beaucoup d'œuvres de structures chrétiennes viennent exposer, 180 à peu près, et on peut voir le dynamisme du monde évangélique. Et il y a bien sûr les éditeurs de littérature. Et la littérature chrétienne, elle est de plus en plus abondante. Et parmi les livres en bonne place, nous avons tous ces livres qui montrent comment l'Église peut progresser. Il y a des choses qui sont appliquées ici ou là et qui sont, qui débouchent sur du succès, un certain succès, et où ça marche. Alors celui qui a cette expérience, il écrit un livre et nous dit voilà, lis ce livre, fais pareil et puis ça marchera aussi chez toi. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin que je suis venu vous apporter une méthode nouvelle qui vous garantira et qui garantira à l'Église de Valence le succès à coup sûr. Pourquoi vous souriez ? Je suis très très sérieux. Hein ? C'est cette méthode que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit que l'humilité vous fasse. Et j'aimerais ce matin que on considère non pas l'humilité comme une attitude, mais comme une activité. Je répète, l'humilité non pas comme une attitude, mais comme une activité. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités dans l'Église, et bien je suis venu en inaugurer une nouvelle, l'humilité. Qui veut s'inscrire ? Voilà, je vois que les meilleurs veulent s'inscrire. L'humilité non pas comme une attitude, mais comme une activité. Comment ? Eh bien, qu'elle vous fasse regarder les autres. Première chose. Qu'elle vous fasse mettre les autres au-dessus de vous-même. Deuxième chose. La troisième, elle n'est pas écrite, mais elle vient en déduction. Quand on fait des hautes études de théologie, on découvre qu'on peut mettre l'autre au-dessus de soi, mais on peut se mettre en dessous de lui. Si, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça. Quand l'autre est au-dessus de moi, je suis en dessous de lui. Cherchez, vous allez trouver la même conclusion. Donc l'humilité me fait me mettre en dessous de l'autre. Et on va voir ces trois choses. Et après, je vous prouverai que le succès est garanti à 100% avec cette activité de l'humilité. Regardez l'autre. Regardez l'autre. Vous souvenez de cet aveugle qui a été guéri par Jésus ? Dans un premier temps, il dit « Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. » Je ne sais pas trop ce qu'il voyait. Mais ce que je constate, c'est qu'il ne voyait pas l'autre. Et je me dis, est-ce que moi, je vois toujours l'autre ? C'est qui l'autre ? Est-ce que vous pourriez donner une définition de l'autre ? L'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est pas si simple. Parce que si je m'analyse bien, est-ce que je ne regarde pas l'autre pour y trouver une partie de moi-même? Oh là là, qu'est-ce qu'il est compliqué. Est-ce que je ne regarde pas, est-ce que je ne suis pas attiré par l'autre lorsqu'il y a chez lui une partie que je reconnais en moi-même? Et déjà ici, est-ce que on pourrait pas se laisser inviter à dire je veux aller plus loin que ça et regarder l'autre même si je ne trouve chez lui rien de moi-même? Trouver chez l'autre une partie de moi-même, ça construit des relations par affinité. Et il y a dans l'Église des personnes qui sont tellement différentes de moi que je peux passer tout au long de l'année devant elle, devant lui, avec un petit bonjour, mais sans vraiment le regarder, le considérer. Et même, dans le mot, on l'a, la notion, l'honorer, l'autre. Et ce matin, je veux me dire, qui c'est ici qui serait quelqu'un dans lequel je ne reconnais rien de moi-même? L'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi. Dans mon cercle de relations, je peux dire l'autre, c'est ma femme. Ah ouais, j'avais pas pensé, tiens. L'autre, c'est mon mari. Frère, est-ce que tu regardes ta femme? Chérie, t'as vu que j'ai changé de coiffure? Ah oui, ça te va bien. Ça fait 15 jours que j'ai changé de coiffure. T'as rien vu. L'autre, c'est mon mari. L'autre, c'est mes enfants. Ça, c'est déjà dans ce qui se passe à la maison. L'autre est dans l'église. L'autre, c'est celui avec qui je travaille, qui peut-être fait la même chose que moi, mais différemment, et d'une manière que je comprends pas très bien. L'autre. L'autre, avant d'aller plus loin, je me suis dit que c'était aussi le non-chrétien. Pendant tout un temps, dans l'église de Narbonne, on a fait une réflexion là-dessus avec l'église sur les non-chrétiens. Et on s'est aperçu qu'on avait quelquefois des mots qui étaient très techniques mais pas très gentils. Par exemple, quand on dit les inconvertis. Je me demande si des fois il n'y a pas des jugements de valeur qui sont dans ce mot. Alors que je vois dans la Bible que Jésus a regardé le jeune homme riche, il a regardé l'autre et il l'a aimé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Que jamais on puisse considérer les autres, ceux du dehors, des expressions qu'on trouve dans la Bible, comme étant inférieurs à nous-mêmes. Vous allez dire, mais ils sont pas chrétiens, ils peuvent pas être supérieurs à nous-mêmes. Je me demande des fois. Mais en tout cas, que notre regard ne devienne jamais un regard condescendant vis-à-vis de ceux qui sont les inconvertis, parce que vous savez, l'humilité nous rappelle que si nous sommes convertis, c'est pas à nous qu'on le doit. C'est pas parce qu'on était meilleur qu'eux. C'est parce que un jour on a eu la grâce de croire, et cette grâce elle est aussi pour eux. Le Seigneur aime autant les non-chrétiens que les chrétiens. C'est vrai ça ou pas? Le soleil brille pour tout le monde, mais il y a ceux qui sont sous les nuages et ceux qui sont à côté des nuages, qui ont le ciel bleu comme hier ici à Valence. Quand on s'est dégagé du nuage, on s'est repenti, on a mis nos péchés de côté, on a vu qu'ils étaient sur la croix, hop, le soleil brille. Mais quand on était sous le nuage, il brillait aussi le soleil. Et l'amour du Seigneur était le même, c'est qu'aujourd'hui, on l'a réalisé cet amour. L'autre, l'honorer. Qui est-ce qu'on doit honorer? Pierre dit, il faut honorer tout le monde. Ben voilà, c'est réglé comme ça. Il faut honorer tout le monde. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça, c'est pratique. Vous savez, c'est le genre de texte qui est bien pratique. Qui c'est que je dois honorer? Eh ben, rends l'honneur à qui tu dois l'honneur. Ah, j'aime bien ce verset, parce que ça veut dire je dois pas rendre l'honneur à qui je dois pas rendre l'honneur. Mais Pierre, lui, il vient nous calmer et dire honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Honorer, on pourrait développer là-dessus, on va pas aller dans la direction, mais par exemple, il est dit, si vous voulez honorer quelqu'un, usez de prévenance. Allez au devant du besoin de l'autre. user de prévenance réciproque. Mon regard sur les autres, le regarder comme étant meilleur que moi-même. J'aime pas cette version de parole vivante. Est-il possible qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui soit meilleur que moi-même? Ouais, tu me regardes et tu dis, ouais, c'est pas difficile à trouver, hein. Ça, c'est la vue extérieure, mais moi, j'ai du mal à croire, ça, qu'il y ait quelqu'un. Quand je me regarde, je me dis, non, il y a personne qui soit meilleur que toi-même. C'est dur, ça, hein. Je plaisante, bien sûr, hein. Mais, on n'a pas cette facilité à regarder l'autre. Si, quelquefois, quand on vient nous chercher, on dit « Oh, mais lui, il est meilleur que moi !» C'est dans l'espoir que quelqu'un nous dise « Non, non, il n'y a que toi !» Ah, je suis rassuré, on m'a reconnu. Comment puis-je faire pour regarder l'autre et le mettre au-dessus de moi? Eh bien, en faisant un petit peu de jeu avec les mots du français, le porter au-dessus de moi, c'est le supporter. Prenez quelqu'un qui court dans un stade. Moi, un jour, il m'est arrivé quelque chose. J'ai prêché dans une église et je sais pas où est-ce que j'étais en forme ce jour-là, où le pasteur, ça lui plaisait. Il m'a dit, écoute, il faut absolument que j'enregistre ton message. Est-ce que tu peux revenir à telle heure, tel jour? Je vais t'enregistrer. Et j'ai prêché devant une salle vide. Il n'y avait que des chaises et il n'y en a aucune qui disait amen quand je prêchais. Eh bien, je vous assure que c'était beaucoup plus difficile. Parce qu'il n'y avait pas l'auditoire qui était là. Une prédication, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Prenez un coureur dans un stade, il fait un 100 mètres. Le stade est vide. Il fait son 100 mètres, il y va de tout son cœur, il donne toute sa force. Et puis le chronomètre est là. Tchac. Il refait la même course. Le stade est plein et tout le monde dit « Allez, vas-y, vas-y, vas-y !» Le supporte. Le chronomètre est là. À votre avis, quelle sera la performance des deux qui sera la meilleure? À votre avis, stade vide ou stade plein? Stade plein. Quand on nous encourage, on se dépasse. Et regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est peut-être simplement une activité qui s'appelle l'encouragement. Est-ce qu'on arrive à encourager? Moi, je trouve que nous, les Français, on a un petit peu de mal avec ça. Hein, on a un petit peu de mal à encourager l'autre. Puis on a nos excuses toutes faites. Hein, on va pas lui dire que c'est bien ce qu'il fait, parce qu'après, il va se prendre les chevilles. Ouais. Ou alors, il fait quelque chose, mais je suis pas tout à fait d'accord avec certaines choses qu'il fait, donc si je l'encourage, je vais me compromettre. Je veux pas me compromettre, alors je vais pas lui dire que c'est bien. Mais réfléchissons un peu. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui vous ont encouragé? Personne? Wow. C'est dramatique. On a tous rencontré quelqu'un un jour qui, avec une parole, nous a encouragés. Lorsque on a besoin d'être conseillé, réorienté ou repris, qui va-t-on le mieux écouter? Moi, je me suis aperçu que mon oreille et mon cœur étaient beaucoup plus ouverts lorsque je reçois un conseil ou une rectification de la part de quelqu'un qui a su m'encourager, plutôt que de quelqu'un qui m'a toujours critiqué ou cassé. Donc l'encouragement, finalement, ne met pas l'autre en danger. L'encouragement le protège. Non seulement l'encouragement le protège, mais l'encouragement va l'amener à se dépasser. Vous voyez cette activité? Dans une église où tout le monde s'encourage mutuellement, où chacun met l'autre au-dessus de lui-même, chacun cherche à se dépasser et chacun est protégé parce qu'il devient attentif aux conseils des autres. Non? Ah, moi ça m'enthousiasme ça, hein? Oh là là, on crée l'activité, qui est-ce qui s'inscrit? Activité humilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui est-ce qui s'inscrit? On encourage l'autre, on le regarde comme étant supérieur à soi-même. Et Et puis, bien sûr, lorsque l'autre est au-dessus, moi, je suis en dessous. Je me mets en dessous. Je me soumets. Je le supporte et je me soumets. Là aussi, on a quelques problèmes avec ça, hein. Se soumettre. Se soumettre, pourtant, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Pratiquement, ça peut vouloir dire quoi? Se soumettre. Prenons, par exemple, quelque chose, puisque c'est aussi souvent, le plus souvent, ce que l'Église est amenée à faire, des activités ou des choses ou des actions ou des décisions qui sont d'un ordre collectif. Puis moi, je suis pas très d'accord. Ça peut arriver, hein. Je peux avoir trois attitudes. Oh, je suis pas d'accord, je m'en vais. Ou je suis pas d'accord, je reste là, mais dès que j'ai l'occasion, par derrière. Ou alors je suis pas d'accord, mais je vais fonctionner avec, puisque c'est la décision qui a été prise. Et je vais m'y impliquer de tout mon cœur. Laquelle des trois activités, des trois attitudes, est une attitude, une démonstration d'humilité? Je crois que c'est la troisième, hein. Et il faut pas avoir peur, on n'est jamais perdant à faire ça. On n'est jamais perdant. Moi, j'ai vu quelquefois dans les choses que j'ai faites des personnes faire ça. Puis un jour venir me parler. Et puis me montrer que leur point de vue n'était pas forcément mauvais. Mais s'ils avaient combattu ou résisté, jamais je les aurais écoutés. Jamais. Mais parce qu'ils ont accepté de se soumettre, après, ils ont trouvé une oreille attentive, puis je me suis dit, bah ouais, finalement, leur manière de voir, elle n'est pas mauvaise. Se mettre dessous, se soumettre. Waouh, c'est des choses, hein, c'est des mots un petit peu ordinaires, mais on a quelquefois un peu de mal avec ça. Alors je vais quand même terminer en vous prouvant, en vous montrant que l'activité de l'humilité, c'est une activité 100% gagnante. Par exemple, 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Vous le notez, vous le regardez, c'est comme vous voulez. C'est écrit dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité. Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Eh oui, l'activité d'humilité attire la grâce de Dieu. L'activité d'orgueil attire sa résistance. Dans le psaume 25, c'est écrit, psaume 25, verset 9, « Il enseigne aux humbles son chemin. » Il enseigne aux humbles son chemin. Qu'est-ce qu'un GPS ? Un jour, nous étions deux collègues et lui, il avait un GPS dans sa poche, moi je l'avais sur la voiture. Et il s'est amusé à mettre son GPS. Au même moment, on allait dans la même direction, au même moment, on a entendu un GPS dire tourner à droite et l'autre dire tourner à gauche. Oh, les deux allaient arriver, mais c'était pas le même chemin. C'est difficile quelquefois de trouver son chemin. C'est d'autant plus difficile de trouver son chemin dans notre cheminement spirituel. La volonté de Dieu, elle n'est pas toujours évidente à trouver. C'est facile de choisir entre le bien et le mal. Pas de problème avec ça. Enfin, j'espère. Mais de choisir entre le bien et le bien. Parce qu'entre le bien et le bien, quelquefois, il n'y en a qu'un des deux qui est dans la volonté de Dieu pour moi. Mais il enseigne aux humbles son chemin. Mon activité d'humilité va me faire trouver la route et faire que je vais pas me perdre ou perdre du temps à devoir faire demi-tour. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. De cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors ici, il y a peut-être un conseil qui est plus donné à ceux qui exercent des responsabilités ou même dans le témoignage personnel. Jésus dit qu'il est humble. Et comme il est humble, il peut nous donner des instructions. Je me demande si la qualité de base pour donner une instruction à quelqu'un n'est pas d'être humble. Sous-entendu qu'un orgueilleux pourra dire un tas de choses, un tas de discours, mais ça sera irrecevable, parce que l'orgueil va brouiller le message. Recevez mes instructions, parce que... Alors qu'est-ce que c'est que quelqu'un de humble en matière de donner des instructions en matière d'enseigner? Je crois qu'on pourrait dire que c'est le fait d'être enseignable soi-même. Est-ce que nous sommes encore enseignables? Oh, moi, depuis le temps que je suis converti, j'ai tout compris, je sais tout, je connais la Bible par cœur. Il y en a qui parlent comme ça ici? Je crois que quelqu'un qui parle comme ça, il peut donner des instructions, personne ne va l'écouter. Hein. Être enseignable soi-même pour pouvoir donner ses instructions à celui qui ne connaît pas Jésus, aux enfants dans les classes d'école du dimanche, aux jeunes, aux ados, etc., et même au club de l'Amandier, être humble pour pouvoir donner ses instructions. Et puis, Proverbe 18:12, c'est le dernier, et je vais terminer avec celui-là. L'orgueil précède la chute, et l'humilité précède la gloire. Amen. C'est pas 100% gagnant, ça. On n'a pas une activité ici, regardez l'autre. Le mettre au-dessus de moi. Le regarder comme étant meilleur que moi-même. Me mettre en dessous de lui. Et le résultat, c'est attirer la grâce de Dieu. Le résultat, c'est trouver le chemin de Dieu. Le résultat, c'est pouvoir communiquer tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et le résultat, c'est une différence. Quelque chose que l'homme ne peut pas fabriquer. Qui porte le sceau, la signature évidente de Dieu, la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. Alors que le Seigneur nous aide, et ne regardons... Enfin, je voudrais vous encourager à plus regarder ça comme une attitude, mais comme une activité.